Bienvenue, je suis Aurélie et je suis ravie de t'accueillir dans Post Boost. J'ai débuté ma carrière dans les ressources humaines, c'est mon domaine coup de cœur, celui que je n'ai jamais quitté. J'en connais tous les recoins, les joies, les satisfactions, mais aussi les défis et difficultés. La pression, les exigences des uns et des autres, et toi, au milieu, qui essaye de garder le cap avec le sourire. Alors que tu sois recruteuse, coach emploi ou RH, ce podcast est fait pour toi. J'ai conçu Post Boost dans un seul objectif, vitaminer ta vie de RH. À chaque épisode, je te propose une nouvelle clé pour avancer pas à pas. Le temps d'un épisode, appuie sur pause et profite. Bonne écoute! Bienvenue, tu écoutes l'épisode 11 de Post Boost, Soft Skills, Chimère ou Révolution. Cette question, je me la suis posée et je suis sûre que toi aussi. Si tu m'écoutes depuis un certain temps, tu dois te douter que j'ai mon avis sur cette question. Mais comme toujours, j'aime échanger avec des expertes sur les sujets qui me questionnent. Aujourd'hui, je reçois Céline Labonne. Elle est consultante en développement RH et elle est spécialisée dans l'assessment et l'évaluation des compétences comportementales. Et je peux te dire que quand il s'agit de compétences comportementales, Céline, elle a 2-3 trucs à nous raconter. Alors, c'est parti. Bonjour Céline, je suis ravie de t'accueillir dans Post Boost.
Bonjour Aurélie, merci à toi de m'avoir invitée.
Mais de rien. Bah écoute, ce que je te propose, c'est d'expliquer à nos auditrices. Qui es-tu, Céline Labonne ?
Alors, je suis un vrai parcours atypique, un profil atypique, comme on les appelle, puisque j'ai un DESS, qui est maintenant correspond à un Master 2, en traduction biomédicale et pharmacologique. Donc, rien à voir avec le Schmilblick. J'ai ensuite été pendant longtemps assistante de direction d'un homme qui avait fondé un cabinet de conception d'exercices de stimulation cognitive. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au fonctionnement humain, au fonctionnement du cerveau. Cet entrepreneur a racheté ensuite un cabinet d'assessment, un cabinet d'assessment de dirigeants sur Paris. Moi, j'étais à Lyon. Et donc, je me suis mis à faire les allers-retours. Je me suis passionnée pour ce métier. J'y suis rentrée par la petite porte, puisqu'au départ, je jouais les comédiens, les acteurs dans les mises en situation, et notamment sur les situations de conflit, où paraît-il, j'étais excellente.
Alors, comme instigatrice ou comme celle qui sauve des conflits ?
Ah non, 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 comme celle qui a un bon caractère et qu'il faut recadrer, remotiver et garder dans l'entreprise. Voilà, et c'est comme ça que je suis rentrée dans ce métier-là. Et après, j'en ai appris toutes les ficelles, en fait, de la psychométrie, donc la mesure des traits de personnalité, jusqu'à l'observation des comportements, des soft skills, les compétences comportementales. Ensuite, je me suis mis à rédiger, à concevoir des journées d'assessment, à rédiger des mises en situation moi-même, donc à concevoir des scénarios qui pouvaient faire émerger les compétences comportementales. Voilà, et progressivement, j'ai acquis une vraie expertise sur l'ensemble de l'évaluation des compétences comportementales, notamment par l'assessment. Et aujourd'hui, c'est le métier que j'exerce au sein de Act for Skills, qui est donc une petite entreprise conseil, qui est la branche conseil du cabinet CCLD, cabinet de recrutement augmenté. Augmenté parce qu'on s'occupe aussi de avant le recrutement et après le recrutement. Et Act for Skills est plus particulièrement positionné sur le après, puisqu'on va être dans la mobilité, le conseil, la formation, comment faire pour garder des talents engagés dans l'entreprise.
Ok, merci. Donc, l'évaluation, c'est ta passion.
L'évaluation, c'est ma passion, exactement. Alors, on ne va pas partir dans une explication psychanalytique de pourquoi, mais je pense que ce serait intéressant.
Ok, mais oui, on pourra faire un autre épisode.
C'est ma passion. Non, en fait, ce que j'aime, c'est surtout prendre l'évaluation. Pour moi, c'est un prétexte, en fait, à faire opérer des prises de conscience chez les personnes de où elles en sont et sur quoi elles peuvent avancer. Voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Parce que évaluer pour évaluer, après, qui je suis, moi, pour évaluer, d'accord ? En revanche, je pense que vraiment faire faire avancer les gens, leur faire prendre conscience de là où ils en sont, ce sur quoi ils peuvent travailler et comment ils sont vus et perçus par les autres, parce que y en a qui sont au courant, il y en a qui ont travaillé sur eux, il y en a qui sont conscients, et puis il y a des gens qui ne se rendent pas du tout compte de l'impact qu'ils peuvent avoir par leur comportement verbal, non-verbal, etc. Et c'est ça que je trouve passionnant, en fait, dans l'évaluation. Ce n'est pas l'évaluation en soi, c'est ce qui se passe après.
Cool. Merci, Céline. Alors, du coup, le sujet du jour, c'est les soft skills chimères ou révolution. Donc, j'aimerais bien, comme toujours, qu'on retourne à la base, c'est-à-dire back to basic. Est-ce que tu peux nous donner ta définition d'une soft skills et aussi de la personnalité ?
Alors, pour bien faire la différence, je dirais quelque chose de très simple qui est, en fait, la personnalité, c'est quelque chose qui est relativement fixe aux alentours des 25 ans. D'accord ? Et on passe par plein de phases pendant l'enfance, l'adolescence, des expériences, etc. Et après, on se forge une personnalité. Après, on peut en discuter pendant des heures de ce que c'est que la personnalité, le persona, comme dirait Jung. Mais en gros, la personnalité, elle est fixée aux alentours de 25 ans. Alors que, et on la garde toute la vie, alors que la compétence comportementale, elle est teintée par des traits de personnalité, mais elle est évolutive. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout les mêmes compétences comportementales aujourd'hui qu'à 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans. Donc, elle est évolutive, et elle est évolutive dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elle peut progresser, elle peut aussi régresser. Pour moi, une soft skill, c'est donc la compétence comportementale, c'est un ensemble de savoir, savoir-faire et savoir-être qui concerne un sujet, par exemple la vente, le management, la négociation, la relation client, voilà, qui concerne un sujet et qui va s'enrichir au fil des expériences, d'accord, professionnelles, s'enrichir ou s'appauvrir d'ailleurs, et qui va se traduire surtout par un comportement observable. C'est-à-dire que si je pense être très compétente sur tel ou tel sujet, mais que à chaque fois que j'ai l'occasion d'exercer cette compétence, je ne le fais pas, alors il manque une brique. Et donc, ce n'est pas une compétence. C'est une volonté, c'est un potentiel, c'est une aptitude, mais ce n'est pas une compétence. Voilà. Okay. Est-ce que c'est, ouais, c'est assez clair. Détaillé ? Ouais,
ouais, c'est hyper cool. Et du coup, quel est ton avis sur le fait d'analyser la personnalité dans le recrutement ? Est-ce que finalement, ça marche ou ça ne marche pas ?
Alors, ce que j'ai l'habitude de dire aussi, c'est quand on fait par exemple une évaluation par mise en situation, qui est le cas de l'Assessment Center, on va regarder ce que la personne fait, le quoi et comment elle le fait. D'accord ? Donc, le quoi et le comment. Et puis, la personnalité, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est l'éclairage qui donne le pourquoi. On a le quoi, on a le comment, et puis on a le pourquoi. Pourquoi elle fait comme ça et pas autrement ? Eh bien, parce que dans sa personnalité, il y a tel ou tel trait psychologique qui font que la personne va faire comme ça plutôt que comme ci. C'est une explication, mais ce n'est pas une compétence en soi. Par contre, c'est très éclairant. C'est-à-dire que ça vient vraiment rajouter une explication, au final, à pourquoi les personnes font de telle façon ou de telle autre façon.
Ok, du coup, ça explique, mais ça ne permet pas de comprendre, c'est ça ?
Ça explique, mais non, alors c'est pas que ça permet, si ça permet de comprendre, mais ça permet pas d'évaluer à quel point la personne va être compétente. Parce que la compétence ne comprend des traits de personnalité, mais ne se réduit pas à eux, en fait.
Ok, et du coup,
pour moi, c'est un apport supplémentaire.
Pardon. C'est un apport de connaissance, un petit peu, de connaissance globale.
C'est une valeur ajoutée, ouais.
Une valeur ajoutée pour le candidat. Du coup, si l'analyse de la personnalité, c'est un éclairage, permet de comprendre, quelle différence tu fais, pas particulièrement sur le recrutement, sur le fait que, oui, c'est ultra utile d'analyser et de valider ou de mesurer des soft skills. Est-ce que tu as des exemples concrets ? Est-ce que ça aide vraiment à prendre de meilleures décisions ou à recruter plus vite ou à faire moins d'erreurs ? L'analyse des soft skills.
Ah oui, ah bah, c'est certain, c'est très prédictif. C'est-à-dire que c'est plus prédictif que le quotient intellectuel, c'est plus prédictif que les compétences techniques qui sont obsolètes. Alors, l'usage est de dire tous les deux, trois ans, ça dépend vraiment des métiers. Il y a des métiers, c'est encore plus rapide, et puis il y a des métiers où le savoir-faire, il tient un peu plus longtemps dans le temps. Mais par contre, les soft skills, c'est vraiment ce qui va faire qu'on va avoir une adéquation entre un poste et un candidat, c'est sûr. La condition avant ce travail-là, c'est d'avoir bien identifié ce qu'on attendait. Et ce qu'on voit, nous, chez nos clients, c'est qu'ils sont un peu perdus. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop s'ils attendent des valeurs, des qualités, du potentiel, des aptitudes, des soft skills. Qu'est-ce que c'est une soft skills ? De la personnalité, de la motivation, etc. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va apporter un cadre assez clair à la lumière des audits qu'on va faire sur les postes, etc. On va aller chercher vraiment de quoi l'entreprise a besoin en termes de compétences comportementales, et uniquement ça, compétences comportementales et motivation. Et on va dessiner un référentiel de compétences qui va servir du coup à évaluer vraiment les personnes sur ce dont l'entreprise a besoin et rien d'autre. Et alors, accessoirement, nous, ce qu'on adore dans cette méthode-là, c'est que c'est l'outil ultime de non-discrimination. C'est-à-dire que quand on se base uniquement sur les compétences comportementales, eh bien, on se fiche complètement de l'âge, du sexe, de la situation sociale, économique, de santé, enfin, tous les 24 ou 26, je ne sais plus, critères de discrimination qui sont illégaux en France ne sont pas évalués par les soft skills, ils ne sont pas pris en compte. Quand on fait une évaluation par compétence comportementale, c'est vraiment le moyen le plus sûr de ne pas être discriminant, en fait. Puisque quelqu'un de 57 ans peut avoir des compétences comportementales bien plus installées et bien plus solides que quelqu'un qui a le profil parfait, 35 ans, un peu d'expérience, mais pas trop, le look du gendre idéal. Enfin, voilà, tout ça n'existe plus. Donc, c'est vraiment un super moyen d'éviter les préjugés, les biais cognitifs, etc.
OK. Comment tu définirais simplement un référentiel de compétences ? Parce que peut-être que tout le monde en entend parler et a du mal à savoir ce que c'est. Le référentiel de compétences, dans le cadre de recrutement, tu le définirais comment ?
Alors, un référentiel de compétences, référentiel, c'est le mot fait allusion au fait que ça va faire référence. C'est-à-dire que c'est un document qui va être la référence pour toutes les personnes travaillant sur ce poste, par exemple. Que ce soit pour du recrutement, de la mobilité, de l'évolution, etc. D'accord ? Donc, il fait référence. Tout le monde est d'accord pour utiliser ce langage-là et pour évaluer sur ces compétences-là. Un référentiel, il est structuré en 4, 5, 6 grandes familles. Pourquoi ? Parce qu'après, ça fait beaucoup et que ça va augmenter le risque de doublons et de redites et puis d'aller sur des choses qui ne sont pas forcément de l'ordre de la compétence comportementale. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le structure en grandes familles et dans ces grandes familles, on va vraiment faire la liste des 5 ou 6 compétences comportementales qui sont indispensables pour le poste. Par exemple, si on dit nous, pour ce poste, il nous faut quelqu'un de dynamique. Bon, OK, mais dynamique, ça ne veut rien dire. C'est pas une compétence comportementale d'être dynamique. Alors que si tu écris se montre dynamique et engagé pour porter l'équipe vers son objectif, bon, bah là, c'est quand même un petit peu plus parlant. En termes de comportement, c'est-à-dire qu'en gros, on parle d'une énergie qui serait là au service d'une équipe, au service d'un objectif et qui ne va pas être là un jour et pas là le lendemain et encore moins là le jour d'après, quoi. Voilà.
OK. Donc, si je récapitule, le référentiel de compétences, c'est un document et donc une référence qui fait accord entre toutes les parties, aussi bien les recruteurs que les managers que la direction. Ça doit être maximum 5 à 6 familles et donc groupes de compétences au risque, sinon que s'il y en est plus, soit ce soit trop large, soit finalement on mette un peu tout et n'importe quoi et que du coup ça fasse un peu redite.
Et puis qu'il y ait une surcharge cognitive, c'est-à-dire que ça peut c'est même souvent 4 familles en fait. Hein. Okay. Il peut y avoir surcharge cognitive et ça veut dire qu'en fait les évaluateurs derrière ne vont plus prendre le temps d'aller chercher tout ce dont ils ont besoin. Donc, il vaut mieux être très concis travailler beaucoup le choix des mots pour bien avoir 4 familles qui soient riches et qui contiennent tout ce dont on a besoin, plutôt que de s'épancher dans 5-6 familles. Alors, nous, chez CCLD Act for Skills, on en a un qui a 7 dimensions. mais parce que c'est notre outil au quotidien et que c'est un référentiel qui couvre l'ensemble des postes qu'on traite et qui représente une diversité énorme, puisqu'on est, on va traiter des profils commerciaux, des profils commerçants, de l'IT, de la compta, de la direction générale, du manager, etc. Donc, il faut vraiment que ça puisse couvrir l'ensemble des postes. Alors que sur un poste ou sur une entreprise donnée, c'est beaucoup plus facile d'être plus concis, en fait, d'être plus succinct et de faire quelque chose qui sera digeste. Le pire exemple que j'ai eu, je ne citerai pas l'entreprise, c'était un référentiel de compétences de 24 familles. Mais c'était, c'était ingérable. Personne pouvait… 24 familles et donc avec une dizaine à chaque fois de compétences.
Dans chaque famille.
Ah bah oui, non mais personne ne se servait de ça, c'est pas possible. Il faut que ce soit pratique, il faut que les gens, il faut que ce soit utile. Nous, on n'est pas des théoriciens, on n'est pas là pour faire du concept. On est là pour fabriquer des outils dont les recruteurs vont pouvoir se servir, tout simplement. Il faut que ça les aide. Mm-hmm. Il ne faut pas que ce soit un frein ou quelque chose qui soit trop compliqué à manipuler. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on va dans les entreprises, on va co-construire ces référentiels avec les personnes concernées, les RH, les opérationnels, etc. Ce qui permet d'utiliser le vocabulaire qui va bien, parce que dans certaines entreprises, on va parler d'équipe, d'autres, on va parler de collectif, d'autres, on va parler de team. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est que les personnes de l'entreprise s'y retrouvent, en fait. Voilà. Donc, on va beaucoup travailler. On travaille beaucoup ces mots-là. Pour que les gens concernés par ce référentiel se retrouvent dedans et puissent travailler avec, tout simplement.
Ok, donc il y a une première phase collective où tu réfléchis avec tes clients sur ces fameuses familles et les compétences que tu vas mettre dans les familles. Et ensuite, comment ils l'utilisent au quotidien ? Avec des questions, des indicateurs de maîtrise pour chaque compétence ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Alors oui, ça peut être soit sous la forme de questions, des questions faisant appel à des expériences passées. J'ai vu que tu en avais parlé avec Gladys, elle fait ça aussi. Elle va chercher chez les candidats les compétences qu'ils ont mis en œuvre dans leur ancien poste, sachant que comme une compétence comportementale, elle est évolutive, ça ne sert à rien d'interroger quelqu'un sur son alternance d'il y a 20 ans. Donc, dans le CV, on va plutôt se baser sur les expériences des 5 à 7 maximum dernières années.
Okay, parce que c'est après, intéressant.
Eh oui, après, si on interroge les gens sur ce qu'ils ont fait il y a plus de 7 ans, on risque d'avoir des exemples de compétences, soit qui n'existent plus, soit qui ont beaucoup évolué depuis.
Ok.
D'accord. Voilà, les compétences comportementales, comme les compétences techniques, elles évoluent. Donc, il faut interroger les personnes sur leurs expériences récentes. Et donc, soit on les interroge, soit on leur fait passer des mises en situation. Alors, moi, c'est évidemment la technique que je préfère, que je prône, c'est ma spécialité. Hein.
Mais tu as raison de prêcher pour ta chapelle.
Je prêche pour ma paroisse, exactement. Platon disait, on connaît mieux quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de conversation.
Okay.
Pour moi, mettre les gens en situation, c'est un outil d'une puissance folle parce que les gens vont se prendre au jeu et on va voir vraiment les comportements émerger en mode réflexe. C'est-à-dire que les compétences qui sont là et qui sont bien installées, elles vont sauter aux yeux parce qu'on va construire des exercices sur un rythme un peu rapide avec beaucoup de challenges à relever, etc. D'accord. Et puis, à l'inverse, les compétences qui ne sont pas là, qui font défaut ou qui sont perfectibles, on va aussi très rapidement les voir parce qu'elles vont poser des problèmes aux candidats pendant la passation de la mise en situation. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette méthode-là, c'est qu'on dépasse vraiment le déclaratif. Mm-hmm. Là, on n'est plus dans du déclaratif.
On est dans l'action.
On est complètement dans l'action. Et là, on va avoir des observateurs qui regardent les comportements à l'œuvre pendant ces mises en situation. Les observateurs doivent être formés à l'évaluation, je précise, c'est important.
Oui, pour savoir ce qu'on cherche.
Oui, et pour savoir ce qu'on cherche, et puis pour aussi avoir une sensibilisation à… un des réflexes qu'on voit souvent, c'est « Ah ben moi, je n'aurais pas fait comme ça ». Ben non, en fait. Voilà. Il y a 1000 façons d'aborder un scénario ou une mise en situation. Donc, si on part avec avant de partir, si on a une idée préconçue de ce qu'on cherche, on n'a pas les chakras assez ouverts pour vraiment être dans une observation riche, neutre et bienveillante, c'est-à-dire bienveillante qui veut le bien de la personne. On est juste en train de se faire du bien à son ego, à soi, en disant ah ben moi j'aurais fait mieux. Voilà, c'est pas le but.
Ok. Donc tu peux soit poser des questions, soit faire ces fameuses donc assessment center, mise en situation concrète. Ouais, est-ce que tu as un exemple à donner sur un métier? Je sais pas. Je te prends au dépourvu.
Alors un exemple à donner sur un métier, oui. Pour un poste de commercial, tout simplement, on va le projeter dans une mise en situation d'une… Alors, si la personne, elle est commerciale, par exemple, dans l'agroalimentaire, je dis n'importe quoi, eh ben, on va le projeter plutôt dans un univers de service pour qu'il ne puisse pas se reposer sur les aspects techniques et aller sur du jargonnage, etc. Puisque ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est le comportement. Donc, on va rédiger un scénario dans un certain univers et on va confronter la personne à un client mécontent qui sera joué par un acteur. Du coup, bah, c'est ce que je faisais au début de ma vie professionnelle, c'était ces rôles-là. Voilà. Ou alors, on va lui donner comme un business case, en fait, où on va lui exposer entre 7 et 25 cas. Alors, il peut y avoir des informations, des messages de fournisseurs, de clients, de collègues, de sa hiérarchie. Et puis, on va lui demander de gérer ces messages ou ces cas et de débriefer aux observateurs ce qu'il ferait s'il était confronté à cette situation-là.
Ok, sur le un ensemble de documents, du coup.
Exactement.
Ok.
Alors, le but, ce n'est pas forcément d'être réaliste parce qu'on a rarement 25 thématiques à gérer en une heure. Le but, c'est d'installer ce rythme-là qui fait que les compétences qui sont solidement installées, on va les voir tout de suite. Et à l'inverse, les points un petit peu plus faibles, ben, on va les voir tout de suite aussi. Ça fait un effet zoom grossissant du comportement, en fait. Et c'est ça qui est intéressant.
Ok. Du coup, toi, tu dirais que le référentiel, c'est juste un outil pour les recruteurs ou c'est un outil qui doit être qui peut ou qui doit être plus global au niveau d'une organisation de travail en général?
Ah ben, c'est dommage de se cantonner qu'au recrutement. Quand on a un référentiel sur mesure par rapport à un poste, une fonction ou une entreprise, il sert à toute la GPEC en fait. Il va servir à l'évaluation pour la mobilité, il va servir pour les entretiens annuels ou périodiques s'il y en a, pour l'évolution, pour la formation. Okay, où est-ce que j'en suis sur ces compétences-là? Et du coup, sur quel type de formation je vais pouvoir aller qui soit le plus pertinent par rapport à ce sur quoi il faut que je travaille, en fait. Donc, non, pour moi, le référentiel, c'est vraiment un outil global de GPEC. Par exemple, chez CCLD, on a un positionnement dans le référentiel pour chaque poste. Et quand la personne passe au poste suivant, elle peut être évaluée pour voir si elle est en capacité d'y accéder. Et puis après, une fois qu'elle est installée sur ce poste-là, elle va être évaluée régulièrement sur ses performances en poste grâce à cet outil-là. Et elle peut aussi demander à une formation qui soit ciblée sur la compétence dans le référentiel qui a été perçue comme étant la moins performante.
Du coup, moi, je suis hyper convaincue de cette idée de référentiel de compétences et de mise en situation. Sinon, je ne t'aurais pas conviée. Mais je peux imaginer que certaines personnes qui nous écoutent doivent se dire « Mais comment je peux faire si je n'ai pas la possibilité de faire appel à un élément extérieur ? Est-ce que tu as quelques conseils sur comment elles pourraient faire pour amorcer déjà peut-être cette discussion en interne ?»
Alors, y a évidemment plein de ressources gratuites sur Internet. Ce podcast en est une, il y en a plein d'autres. Attention à l'infobésité parce que il y a énormément d'infos qui circulent, qui sont abordées sous des angles différents et qui du coup peuvent être très personnels aussi par rapport à la personne qui a rédigé ou enregistré des infos. Donc la personne qui a vraiment pas bossé sur ce sujet-là risque de se perdre, on va dire. Alors, il peut y avoir des personnes RH, des chargés RH qui ont les idées claires par rapport à ça et qui se sentent en fait d'animer ou d'avoir un peu cette posture de médiateur par rapport aux attentes des opérationnels, des RH, de la direction, parce qu'il y a ça aussi comme enjeu hein, sur un poste. Hein. C'est qu'il y a des fois, on est déconnecté entre la réalité du terrain et puis ce que souhaite la direction. Donc souvent, un audit préalable à la construction d'un référentiel de compétences, ça va bien plus loin que juste la construction du référentiel de compétences. Ça sert aussi un peu de diagnostic global sur la com RH dans l'entreprise. Mais bon, donc voilà, s'il y a une ressource interne qui est capable de faire ça, et qui a les idées claires sur ce que c'est qu'une compétence comportementale, qui voit très bien quel type de famille il pourrait y avoir dans le référentiel, à ce moment-là, oui, ce n'est pas la peine de faire appel à un expert. Peut-être en audit ou en validation du référentiel une fois qu'il est construit. Pour répondre à ta question plutôt sur combien de temps ça prend, aujourd'hui, nous, grâce à l'expertise qu'on a acquise, il nous faut 6-8 interviews ciblées de personnes concernées par le poste, soit des personnes, il faut qu'il y ait un mix, des personnes qui occupent le poste, des RH, des opérationnels, voilà, pour avoir une vision un peu sous différents angles. Et après, la co-construction en atelier, c'est une journée. Et à la fin de la journée, le référentiel existe. Hein. Donc, c'est assez rapide, ouais. C'est assez rapide, mais parce que nous, notre référentiel, on a mis plus de 6 mois à le construire. Oui, donc, on a vraiment énormément travaillé cette question de la compétence. Qu'est-ce que c'est qu'une compétence? Comment ça s'évalue? Qu'est-ce que je cherche exactement? On a beaucoup étudié, en fait, les facteurs de performance. Quelle compétence comportementale était le plus prédictif de performance? Donc, on est arrivé à avoir, à force d'étudier, de lire et de travailler aussi en collectif, on est arrivé à avoir une vraie expertise autour de ces sujets-là.
Okay.
Toutes les entreprises n'ont pas le temps de faire ça et de mettre ce temps-là, cette énergie et ces ressources pour construire un référentiel de compétences ou deux ou trois. Donc après, oui, peut-être que je prêche pour ma paroisse, mais encore une fois, pourquoi se priver d'un expert sur ce sujet-là, quoi.
Alors, moi, je reste persuadée qu'on ne peut pas être expert de toutes les missions qu'on nous confie.
Oui.
Exactement. Et que souvent, on perd bien trop de temps à essayer de se mettre au minimum d'exigences requises. On perd du temps et finalement, on n'est pas performant parce que ce n'est pas notre job, en fait. Et que du coup, en effet, si on a la possibilité, que c'est un projet au long cours, quelque chose qu'on a envie de monter, en effet, moi, je suis très fan du fait de faire appel à un expert. Donc, du coup, dans votre optique, je récapitule, c'est 6 à 8 interviews, soit avec des personnes qui occupent le poste, soit avec des RH ou des managers.
Et en ensuite, fait, ce n'est pas soit, c'est et.
Et, pardon.
Des personnes qui occupent le poste, et des RH, et des managers, et des opérationnels.
Une approche globale d'un poste, si on reprend notre exemple de commercial, par exemple, ça va être plusieurs personnes qui vont graviter autour de ce métier-là, ce poste-là. Et ensuite, en co-construction, en séance de groupe, vous intervenez avec les mêmes personnes que vous avez auditées pendant ces 6 à 8 interviews?
Pas forcément.
Okay.
Il faut qu'il y en ait une ou deux communes quand même. En général, c'est les RH qui ont mandaté l'opération. Mais ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Non. Du coup, on récupère aussi d'autres infos par ce biais-là. Et on va les confronter aux conclusions de l'audit. C'est super intéressant. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la fin de la journée, on arrive toujours à mettre tout le monde d'accord. Et pourtant, quand on arrive sur les entreprises, ce n'est pas forcément le cas. Il peut y avoir vraiment des grosses divergences de points de vue. Mais voilà, on a des outils d'animation et de médiation. Et puis, on sait exactement ce que c'est qu'une compétence comportementale. Donc, quand on a quelqu'un en face qui parle d'un biais cognitif, d'un préjugé, d'une valeur, enfin de quelque chose qui n'est pas de la compétence comportementale, on peut aussi expliquer, nous, en tant qu'experts, pourquoi ça ne rentre pas dans le jeu. Mais des fois, on a, voilà, pour l'anecdote, on a des choses surprenantes. Moi, je me souviens d'un client qui évaluait les nouveaux entrants, ils étaient évalués sur la capacité à danser sur les tables pendant la première soirée d'intégration. Bon,
Oui, why not?
C'est voilà. Donc, on a et en fait, comme c'est aussi ça la force d'un collectif, c'est que comme tous ses collègues m'avaient écouté attentivement pendant l'atelier, c'est eux qui lui ont répondu.
Qui l'ont recadré.
Ouais, c'est pas moi. J'ai pas eu besoin de le faire. Parce que il y a une vraie montée en compétences aussi pendant cette journée-là de co-construction. C'est ça qui est génial. C'est qu'après, ils montent vraiment en compétences, les intervenants, sur ce que c'est qu'un référentiel, sur ce que c'est qu'une compétence comportementale, sur ce que c'est qu'un biais cognitif ou un préjugé.
Ben, c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que surtout dans la sphère RH et recrutement, alors que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, c'est un peu les sujets qui pas font le buzz, mais qui en tout cas font l'engagement. Et finalement, tout le monde prend la parole, c'est très bien. Mais sauf qu'on a du mal à un moment donné à statuer sur qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est factuel, qu'est-ce qui est vrai, etc. Donc, je pense que ces journées-là aussi, ça permet de reposer le cadre de… Oui. Quels sont les critères qui sont discriminatoires? Parce que souvent, on n'en a pas conscience. Et en fait, soi-même, on peut soit les utiliser, soit se dire, bon, mais finalement, ce n'est pas grave. Et oui, Jean-Paul m'a dit que, donc je vais quand même écouter Jean-Paul ou Janine. Et en fait, non, il ne faut pas écouter Jean-Paul ou Janine. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que la routine fait que finalement, ces biais cognitifs, ces stéréotypes avec lesquels on travaille ou auprès desquels on est confronté parce qu'on l'entend tous les jours, soit du ou de la manager ou des collaborateurs, ben finalement, c'est une espèce de brouhaha autour de soi qui fait qu'on a beaucoup de mal à se poser et à décider. Et je pense que ce qui marche dans le fait de faire appel à un expert et de la co-construction, c'est que justement, à un moment donné, on fait la pause dans ce tourbillon d'informations et on c'est se ça. Pose les vraies questions. Qui sont qu'est-ce que c'est une compétence comportementale et de quoi j'ai besoin pour ce poste-là. Point.
C'est hyper important parce que tu vois, à ma connaissance, pour l'instant, ce n'est pas enseigné dans les masters RH. Enfin, c'est des sujets qui ne sont pas du tout abordés. Hein. L'assessment, il n'existe aucune formation à l'assessment, en tout cas pas dans un cursus scolaire. Quand on a des recruteurs qui arrivent avec toutes les bonnes intentions du monde, à qui on dit « faut surtout pas recruter des clones », mais ok, mais s'ils n'ont pas d'outils, comment ils font en fait ? Ils sont démunis. Et c'est super dur à vivre, je trouve, moi. Voilà. Et en plus, l'effet que créent les réseaux sociaux, qui est un effet pervers, mais qui est connu même sur les autres réseaux sociaux, c'est que tu as l'impression que tout le monde fait des trucs géniaux. Et toi, tu rames dans ton petit bureau de RH en disant mais ok, mais comment je fais pour recruter ? En plus, en ce moment, le recrutement, c'est vraiment tendu. Donc, oui, je sais que la compétence comportementale, les soft skills, c'est ce vers quoi il faut aller. Mais concrètement, comment j'y vais ? C'est ça qui est compliqué. Voilà. Donc, être formé, discuter avec des experts qui bossent, moi, c'est mon quotidien. C'est-à-dire que ça fait 14 ans que je travaille uniquement là-dessus. Bon, ben voilà, c'est quand même éclairant, quoi. C'est-à-dire, c'est mon métier et je peux vraiment beaucoup clarifier le sujet sur quelqu'un qui en aurait besoin. Et après, dans mes clients, il y a des gens qu'on a beaucoup besoin et il y en a qu'on a beaucoup moins besoin, qui sont déjà assez avancés sur le sujet et à qui je vais simplement apporter un peu de structure. Voilà, en disant, ah oui, bah ça, c'est OK, ça, oui. Là, on peut simplifier et hop, voilà ton outil, quoi.
Oui, ça dépend de l'état de maturation, oui, de la réflexion à l'interne.
Bien sûr, bien sûr. C'est comme les observateurs en assessment. Il y a des gens qui sont bourrés de préjugés, qui vont être dans les stéréotypes. Ah ben non, mais lui, on ne peut pas le recruter. Il se comporte comme Jean-Pierre. Non, en fait.
Alors, puis, on n'a rien contre les Jean-Pierre ou les Jean-Paul, parce qu'à chaque fois, toutes les deux, non, on prend l'exemple, oui, des Jean-Pierre, vrai, et des Jean-Paul. Mais ça pourrait être Kevin, David et Hugo, peu importe. Hein.
Exactement. Exactement, ou Martine. mais ce qui... Et puis, il va y avoir des observateurs qui seront vraiment... à qui ce genre d'apport va être comme une bouffée d'air frais. Ah, enfin, je peux faire du bon travail, quelque chose de professionnel qui me satisfait vraiment parce que là, j'ai l'impression de bien faire mon métier.
Tout simplement parce qu'ils savent où ils vont, en fait. Et que peut-être aujourd'hui, le recrutement, c'est naviguer à vue entre les exigences des clients qui sont ouais. Je voudrais le profil, le mouton à 1000 pattes pour hier, mais du coup, tu es déjà en retard. Les c'est candidats ça. Qui, comme tout le monde aussi, ont des envies de changement, des nouvelles exigences Et ça perturbe, en fait. Donc, quand on est tout seul au milieu avec sa barque et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche à valider, c'est sûr que ça doit être compliqué. Mais heureusement, il y a des solutions, comme le référentiel.
Bah oui. Et c'est dommage de s'en priver parce que c'est vraiment un outil qui est, au final, qui est très concret, qui est simple à utiliser et qui clarifie beaucoup les choses, tout simplement. Ça permet vraiment d'y voir clair sur ce que c'est qu'une compétence comportementale. Et après, il y a l'évaluation en soi, ça va marcher avec des systèmes de curseurs. Donc, par exemple, est-ce que je suis aux attendus, très au-dessus, très en dessous, un peu au-dessus, un peu en dessous. Nous, en général, on fait sur une échelle de 5. Voilà. Ça donne une idée, c'est-à-dire que si je suis très au-dessus sur un certain nombre de sujets dans le référentiel de compétences, bah là, c'est qu'on a affaire à un potentiel. Et peut-être que cette personne-là, il faudrait déjà la positionner sur le poste d'après. C'est ça qui est intéressant aussi sur un référentiel. À l'inverse, si on a un rapport plus contrasté avec des compétences sur lesquelles on est aux attendus, certaines un peu au-dessus, certaines un peu en dessous, on va avoir le diagnostic des points sur lesquels il faut travailler spécifiquement. S'il y a trop de zones qui sont très en dessous, c'est que la personne, si elle est déjà en poste, n'est pas à sa place. Et elle va faire plus de mal que de bien. Si elle n'y est pas encore, c'est que c'est trop tôt pour elle par rapport à ces missions-là.
C'est donc, un vrai de toute outil façon... de décision et de pilotage. Du coup.
Ah oui, oui. Ouais, ouais, vraiment.
Le poste de pilotage.
Exactement. Ça permet vraiment de savoir où on va, d'objectiver les décisions, c'est-à-dire les rendre vraiment... clair. Alors, j'en profite pour parler du baromètre candidat, l'étude candidat qu'a publié CCLD récemment. C'est le paragraphe qui m'a le plus interpellé moi sur cette étude, qui est très complète, qui vraiment c'est une mine d'or par rapport aux infos qu'on peut avoir sur les attentes des candidats et sur ce que pensent les recruteurs, où ils en sont dans leur pratique. C'est le verbatim des candidats qui disent les recruteurs disent ou pensent recruter sur les soft skills, mais ne le font pas. Donc, ça prouve exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'y aller, il y a même une communication autour de ça, mais concrètement, quand il faut y aller, il n'y a pas grand monde qui est équipé.
Ouais, sans doute par peur, par manque de temps, par manque de courage, peut-être aussi.
Parce alors, que je ne sais pas si c'est du courage.
Ça veut dire qu'il faut changer, tu vois, il faut accepter
le changement
aussi.
Habitudes.
Tu vois. Ouais. C'est le courage sur le fait de se dire, bah, peut-être que jusqu'à présent, on a toujours fait comme ça, il faudrait peut-être qu'on change. Ouais. Et après, il y a le fameux hashtag, mais c'était mieux avant, mais pourquoi on va... Tu vois, celui-là, on le voit des fois avec certains clients et c'est normal parce que toute perspective de changement, elle peut générer de l'inconfort, du stress, de l'appréhension. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait avec Gladys il y a quelques jours, tu ne peux pas changer le marché du travail, c'est-à-dire que recruter, c'est difficile. Ok, c'est difficile, qu'est-ce qu'on fait ? On tourne en toupie en disant « Ah, mon Dieu, c'est pas possible !» Et tous ces clients et tous ces candidats, mais comment on va faire ? Ou alors, on se pose, on prend du temps, même si du temps, on peut toujours en trouver. Moi, l'argument « Aurélie, je n'ai pas de temps pour », j'ai beaucoup de mal à l'entendre parce que je pense qu'on a tous moyen de trouver du temps. Et à un moment donné, il faut appuyer sur pause, il faut réfléchir, il faut se dire « Ok, pourquoi je n'arrive pas à recruter ? Est-ce que j'ai les bons critères de recherche de candidats et de sélection des candidats. Et si je les ai sélectionnés et qu'ils ne restent pas, pourquoi ils s'en vont ? Moi, je suis persuadée que dans 9 cas sur 10, quand un collaborateur s'en va, ce n'est pas du fait du collaborateur, c'est du fait de l'organisation dans laquelle il travaille, qui, à un moment donné, n'a pas su donner les éléments complets.
Moi, je regarde ça, je trouve ça génial, ce qui se passe en ce moment. Alors oui, c'est difficile le quotidien d'un recruteur, mais par contre, vu de ma lucarne, c'est vraiment, vu que les entreprises n'ont pas réagi assez vite sur justement les soft skills, les valeurs, la nécessité d'avoir du sens, d'être dans la vraie bienveillance et pas seulement dans la bienveillance affichée, bah c'est nous les candidats qui allons poser nos règles par rapport à ça. Et nous, on veut du sens, on veut des valeurs, on veut des missions qu'on comprenne, etc. Donc, je trouve que cette remise en question, elle est absolument géniale. C'est vraiment une invitation pour les entreprises, alors pas forcément pour les managers, hein, qui sont souvent pris en sandwich entre les directions et les candidats. Donc, les pauvres, je leur adresse vraiment toute ma compassion. Mais vraiment, c'est un appel aux directions d'entreprise à dire, donnez-nous du sens. Soyez clair, soyez transparent, soyez congruent. Faites ce que vous dites et dites ce que vous faites. Et je trouve ça génial, cette injonction des candidats. Ils ont retourné le game, en fait. Donc, voilà. Et nous, déjà, à notre niveau, en tant que recruteur et en tant que spécialiste de l'évaluation, moi, c'est vraiment mon fil rouge. C'est cette intégrité-là, c'est-à-dire je te dis ce que je vais faire, je te dis sur quoi je vais évaluer, je peux même te raconter ma méthode, mais pour autant, je vais arriver à évaluer. Voilà. Et tu sauras exactement pourquoi tu as été retenu ou pas, que ce soit pour du recrutement ou de la mobilité, je vais donner du sens et je vais t'aider à avancer grâce à ça. Donc, c'est aussi toute la posture coaching-conseil qu'on peut avoir grâce à ce référentiel de compétences que ne permet absolument pas, par exemple, et là, tu vois, toi, tu as ton hashtag, moi, j'ai le mien, je recrute au feeling. Le fameux feeling. Et donc, comment tu fais pour donner du feedback à ton candidat en disant, non, ben là, je ne vous sens pas. OK. Hyper constructif comme feedback. C'est horrible. Oui. Alors que si tu expliques à un candidat, écoutez, voilà, on avait 4 dimensions, je vous rappelle. Donc, vous vous avez évalué sur la dimension management, la dimension orientation client, la dimension réseau et la dimension capacité à apprendre. OK. Vous avez coché 2 cases sur 4. Voilà exactement les points sur lesquels vous pouvez vous appuyer, que ce soit pour ce poste-là ou pour un autre. Voilà les points sur lesquels vous pouvez travailler. Et pour cette raison-là, nous avons décidé de soit vous garder, soit pour l'instant refuser votre candidature. Ça a du sens. Ça, c'est OK, c'est transparent, c'est intègre, c'est honnête.
Bon, alors du coup, ta réponse, c'est le sujet du jour, c'était les softies, chimère ou révolution. Je crois que j'ai une idée sur ta réponse, mais qu'est-ce que tu en penses ?
Bah, révolution. Révolution. La révolution, hein, si on prend, moi je suis linguiste à la base. Hein, donc
je sais, c'est pour ça que je me suis dit, j'utilise révolution, est-ce que vraiment j'y vais sur révolution ou pas ?
Ah oui, révolution, c'est le fait de faire un tour autour de soi-même, hein, à la base, l'origine étymologique du mot. Donc, révolution, ouais.
Du coup, la dernière question, c'est celle que je pose à toutes mes invitées, donc je vais te la poser à toi aussi. C'est quoi pour toi, Céline, une pause boost ?
Alors, une pause boost, ça peut être... sous la forme d'un article ou d'un livre ou d'un podcast, quelque chose que j'apprends, un angle différent sur un sujet que je pense bien connaître. J'adore ça. C'est-à-dire que j'ai des certitudes, j'ai des convictions, comme tout le monde, je crois qu'on l'a bien entendu. Et puis, tout d'un coup, je lis quelque chose ou j'entends quelque chose et là, ça fait « et la lumière fut ». Voilà, ça, j'adore. Ça, c'est la pause boost de mon cerveau.
Merci beaucoup, Céline. J'étais ravie de t'accueillir dans cet épisode de Pause Boost. Comment on fait pour te suivre et te contacter ?
Alors déjà, merci beaucoup à toi. C'est des sujets qui me passionnent, donc je peux en parler pendant des heures. Pour me contacter, donc c'est très facile, la page LinkedIn, Céline-Labaune. La page LinkedIn d'Act for Skills, donc Act for Skills, ça veut dire agir pour les talents, hein, tout simplement. Sinon, la page web de CCLD, qui est le cabinet mère d'Act for Skills.
Et je crois que tu as une actu tous les mardis sur LinkedIn.
Alors voilà, tous les mardis, je publie un édito qui s'appelle Skillsyn. Skillsyn par Céline, c'est tous les mardis des infos sur les compétences.
Cool, merci beaucoup Céline et à bientôt.
Tout le plaisir était pour moi, merci Aurélie.
J'espère que cet épisode t'a plu. Alors tu le sais, le meilleur moyen de faire connaître Postboost, ça reste le bouche à oreille. Alors je compte sur toi et je fais aussi appel à toi aujourd'hui parce que je suis à la recherche de nouvelles invitées expertes pour les prochains épisodes. Alors, si tu as un coup de cœur à me faire partager, n'hésite pas à me contacter sur LinkedIn et je serai ravie d'organiser une interview. Je te dis à bientôt.